Pascal.
Au nom de la mauvaise foi, de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire, je te baptise journaliste.
Radio Canu, 102.2.
Canu Info.
Gloire au chômage.
Bonsoir.
Et c'est l'heure du
Canu Info
du mercredi.
Les Canu Info.
Canu Info
du mercredi.
Bonsoir. Il est 19h passé de 8 minutes et c'est l'heure du Canu Info. Ce soir, on va parler de...
Je ne sais pas, je n'ai pas de film, mais moi je vais parler de... J'aurai des brèves sur le Kurdistan, et toi ?
Et moi j'aurai deux petites brèves. Autrement dire, je pense que ça va être le Canu Info le plus court de l'histoire.
C'est quand la dernière fois que vous avez entendu ?
Et avec plein d'erreurs de... Voilà. Et ben on commence par deux brèves qui feront qui voilà. Donc on va faire un tour du procès de gens qui se sont autour de Sainte-Soline. Et donc après avoir frappé et mutilé les corps, l'appareil répressif continue son broyage et condamne à trois militants ayant manifesté contre les bassines à Sainte-Soline à de la prison avec sursis. Le tribunal a suivi de très très près les réquisitions du procureur. Le porte-parole du collectif Bassine Non Merci, Julien Leguet, a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et une interdiction de paraître pendant 3 ans à Sainte-Soline et Mosée sur le Mignon. Basile Dutertre et Benoît Feuillu, pour leur pseudo, membres des Soulèvements de la Terre, ont été condamnés respectivement à 9 et 6 mois de sursis assortis de la même interdiction de se rendre à Sainte-Soline. 6 autres prévenus ont été condamnés, eux, sans sursis, mais avec la même interdiction de se rendre à Sainte-Soline également. Il s'agit de 2 membres de la Confédération Paysanne, de 2 syndicalistes de la CGT et de Sud Solidaire, et un membre de la BNM et un agriculteur bio. Tous refusent le qualificatif d'organisateur. Bon, pour le coup, ce qualificatif était plutôt apposé à ceux qui ont été condamnés à du sursis, donc pour avoir organisé une manifestation interdite. C'était la justification, et tout en prévenant que ce n'était pas en interdisant à 9 personnes de se rendre dans un endroit que les manifestations seront décalées. Les luttes ont lieu là où elles sont nécessaires. Et on va faire un tour du côté du Pas-de-Calais et de la Somme, où les préfectures ont installé un nouveau dispositif visant à empêcher les embarcations de se rendre sur le fleuve de l'Authy qui se jette dans la mer. Alors ces embarcations, il s'agit des embarcations qui traversent la Manche avec des exilés à leur bord, et depuis quelques temps, afin de contrer les nombreux contrôles policiers sur les côtes, une nouvelle technique est appelée taxi-boat est apparue. Des bateaux pneumatiques partent plus au sud du littoral, plus au niveau du Touquet par exemple, là où il y a moins de contrôles, avec seulement quelques quelques personnes à bord, puis prennent la direction du nord, près des plages de Calais, là où les attendent des candidats ayant payé la traversée, parfois dans les eaux froides. Ils se jettent rapidement dans les embarcations afin de ne pas se faire prendre. Le but, rendre impossible leur arrestation en vue du droit maritime qui interdit à la police d'interpeller des bateaux déjà en mer. Comme d'habitude, les exilés prennent de plus en plus de risques pour traverser au fur et à mesure que les États prennent de sordides mesures. Pour Pierre Roc de l'Auberge des Migrants, tous ces dispositifs poussent uniquement les gens à aller plus loin. Ce ne fait que doubler le temps de traversée et les risques qui vont avec. Les réseaux de passeurs vont juste se réadapter et vont devenir de plus en plus indispensables. Ah, et on passe au bref du Kurdistan, comme ça un peu sans transition.
Alors, la Turquie, dont le gouvernement autocratique d'Erdogan fait aujourd'hui partie de ceux qui critiquent Israël de la manière la plus virulente par rapport à ce qui se passe à Gaza, continue sa politique de répression envers le peuple kurde et continue sa politique de colonisation des territoires kurdes dans le nord-est de la Syrie notamment. Si le gouvernement turc a traité récemment Netanyahou de nazi et accusé Israël d'être l'auteur de l'attentat en Iran, d'être les auteurs de l'attentat en Iran avant que Daesh ne le revendique, ses relations, les relations entre la Turquie et Israël notamment, commerciales, seraient actuellement des plus florissantes. J'en veux pour preuve le vote au Parlement turc d'il y a 2 semaines. En effet, l'opposition qui soupçonnait les déclarations agressives du pouvoir de cacher en réalité des relations étroites et des échanges commerciaux conséquents entre les deux États. Pour en avoir la représentation chiffrée, l'opposition a déposé une motion pour demander la création d'une commission d'enquête indépendante pour faire un bilan des échanges commerciaux entre Israël et la Turquie. Les parlementaires du parti au pouvoir en Turquie, l'AKP et leurs alliés nationalistes du MHP ont voté contre la création d'une telle commission d'enquête. La motion a donc été majoritairement rejetée. C'est dans ce contexte que le gouvernement turc continue la répression contre le mouvement kurde et ses alliés de gauche. Et quand on dit gauche là-bas, ça correspond à l'extrême gauche ici, genre NPA, communiste révolutionnaire et anarchiste. Hier matin, 165 personnes ont été arrêtées et ont vu leur domicile perquisitionné autour d'Istanbul, d'Adana, d'Antep et de Diyarbakir. De nombreuses gardes à vue ont donné suite à ces arrestations. La plupart des gardes à vue sont des femmes, des militantes du parti DEM, des activistes du TJA, mouvement des femmes kurdes, des membres du centre culturel de Mésopotamie et des maires de la paix. Cette vague de répression est vue par le gouvernement kurde comme une tentative de déstabilisation à l'approche d'élections locales qui doivent se tenir en mars, mais elle pourrait aussi être l'expression d'une simple vengeance du gouvernement turc dont l'armée a subi de nombreuses pertes lors de ses récentes attaques contre la guérilla du PKK. Alors, on le rappelle, le PKK, parti des travailleurs du Kurdistan, mène une guérilla pour la reconnaissance des droits du peuple kurde depuis 1984. Ses forces armées sont actuellement basées dans les montagnes du nord de l'Irak et, comme je l'ai déjà dit ici, elles subissent depuis plusieurs mois des assauts intenses de l'armée turque, notamment avec l'utilisation d'armes chimiques et d'armes nucléaires tactiques. On rappelle aussi que la guérilla du PKK n'est qu'un aspect du mouvement. Le travail idéologique et politique en est un autre, tout aussi important. Marxiste à ses débuts, le PKK se revendique aujourd'hui du confédéralisme démocratique, basé sur le municipalisme libertaire. Il est aussi à l'origine de l'idéologie de l'administration autonome du nord et de l'est de la Syrie. Hier matin, 160 que le PKK avait été à l'origine de la création de l'administration autonome du Nord et de l'Est de la Syrie. Administration qui avait été créée suite à la résistance héroïque des Kurdes et de leurs alliés arabes face à Daesh. Aujourd'hui, une partie de ce territoire est colonisée par la Turquie et cette région, le Rojava, est régulièrement attaquée par l'armée turque et ses mercenaires locaux. Ces trois derniers jours, l'armée turque a bombardé 80 installations du Rojava. Et quand je dis installations, je parle d'infrastructures énergétiques et de services publics. Et suite à ces bombardements, 2,5 millions de personnes se retrouvent sans électricité. On retourne dans la partie turque du Kurdistan, au Bakour, où deux commères, c'est en deux mots, hein, deux maires, parce qu'on rappelle que le parti à l'époque HDP, qui s'appelle aujourd'hui EDEP, qui a changé plein de fois de nom parce qu'il a été interdit, on rappelle qu'ils gagnaient les élections municipales, et du coup, quand eux gagnaient les élections municipales, ils imposaient un maire homme et une maire femme. Pour avoir la parité. Et énormément de ces maires ont été, depuis des années, arrêtés et mis emprisonnés et remplacés par des administrateurs d'État. Alors, deux de ces commères viennent d'être relâchés après 8 ans de détention. Et 8 ans, c'est le temps qu'il aura fallu à la justice pour déterminer que les charges retenues contre elle et eux et lui n'étaient pas fondées. Il et elles avaient été arrêtés sous le prétexte d'appartenance à un parti terroriste, le PKK, et remplacés, comme on l'a dit, dans leur fonction de maire par un administrateur nommé par l'État. Du coup, politique courante au Bakour. En Turquie, encore, la semaine dernière, 6 femmes journalistes étaient jugées à Istanbul pour avoir protesté contre la répression à l'égard des médias kurdes. Des locaux de nombreux journaux avaient été fermés et les journalistes arrêtés. Ces femmes journalistes viennent de différents médias et sont accusées de violation du droit de réunion parce qu'elles avaient participé à un rassemblement de protestation contre les répressions subies par leurs collègues kurdes. Lors du procès, elles ont renouvelé leur soutien aux journalistes kurdes. Pour terminer, ce qu'on peut dire si on a la chance de voir la photo de ces femmes journalistes prises le jour du procès, c'est que lorsqu'on voit leur large sourire, l'intensité de leur regard et le signe de la victoire qu'elles forment fièrement avec leurs doigts, ce qu'on peut dire, c'est que ces tentatives d'intimidation n'ont en rien entamé leur détermination. Est-ce qu'on laisserait pas la musique finir et qu'on ferait un petit agenda après ?
Et après le Canu Info le plus court de l'histoire du Canu Info du mercredi, vous aurez l'agenda le plus court de l'histoire du Canu Info du mercredi. Mais ce n'est pas non plus. Enfin, c'est quand même important. C'est samedi 20 janvier à 14h30 et c'est pour une marche pour Gaza et pour la Palestine qui aura lieu donc ce samedi 20 janvier à 14h30, place Bellecour. C'est à l'appel du collectif 69 de soutien au peuple palestinien avec les revendications cesser le feu permanent et levée immédiate du blocus, arrêt des bombardements et des déplacements forcés de la population, protection du peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie et des sanctions qui doivent être prises contre l'État génocidaire israélien.
Des sanctions qui doivent être prises.
Qui doivent être prises, pardon.
Alors, moi je vais rajouter qu'une table de presse avec des infos se tiendra samedi de 14h à 17h. Du coup, vous pourriez y aller peut-être à la fin de la manif Palestine, à la Part-Dieu, côté gare routière, et ce sera contre la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Voilà.
Parfait. On espère qu'il fera beau pour la manif. Comme ça, ça attirera plus de monde.
Oui, et ça changera.
Et ça changera. Merci de nous avoir écoutés brièvement. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, passez une bonne semaine.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2. Et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.fr.